Les agriculteurs, les agricultrices, ils sont différents parce qu'ils se lèvent de bonne heure et ils ont une mission et ils souffrent. Mais c'est normal parce qu'ils ont une mission qu'on leur a confiée et ils doivent être fiers de ça, quoi. Et ce discours-là, il est aliénant en réalité. Il touche à la fois à la fierté, mais en même temps, il produit des souffrances parce qu'il produit des personnes qui sont en détresse à certains moments et avec, on en parlait tout à l'heure, des taux de suicide parce que c'est impossible à tenir. Cette mission, qu'elle soit filiale dans la famille ou par rapport au voisinage, etc., cette masse de travail, de responsabilité, il y a un moment, elle est impossible à tenir. C'est une mise en danger de la vie d'autrui, de la vie des paysans, des paysannes, au travers ce type de discours, quoi.
Rester petite, c'est pourquoi elle s'obstine à rester sauvage. Sans trop de techniques, devenir grande avec les phytos comme mentor, c'est éclater la vie, même celle de ceux qui ne font pas de tort. À l'époque où grande fermait tes gamines, on sortait de la guerre, fallait sortir de la famine. Maintenant la misère est entrée dans nos terres, étape éclate les vers de terre dans mortal désert. Évidemment, il faut quand même de l'argent, faut faire ses preuves chez les grands. Alors on trouve des clients dans des assos, plus question de rester solo, plus de journées d'enfer. Petite ferme veut des trêves, je ne crois pas que c'était volontaire. Les anciens, c'est certain, indirectement ont montré qu'un chier c'est bien. Demain, petite ferme et de fermeture pour préparer les fêtes avec sa progéniture.
Petite ferme va enchanter le monde des fous, elle va pousser un peu partout près de chez vous. Petite ferme va secouer les grosses et t'inquiète, tu verras, elle nourrira tes gosses. Petite ferme.
Est-il possible, particulièrement en Bretagne, de faire autrement, cultiver autrement, de se lancer en bio, comme on dit, de s'affranchir des dépendances vis-à-vis des machines-outils, des pesticides, de la coopérative, de la grande distribution? Romane, tu as l'intention de te lancer là-dedans?
Oui, absolument. Oui, c'est beaucoup plus compliqué de s'installer, mais c'est pas du tout impossible. On a un vrai travail à faire et il y a plein d'organisations qui le font pour recréer des filières locales, recréer des structures d'entraide et des structures collectives. Je pense au CIVAM, je pense à la CIAP qui est une coopérative d'installation à l'agriculture paysanne. Il y a, je pense à Terre de Lien, il y a tout plein de structures qui vont nous permettre de reprendre des terres à l'agro-industrie pour pouvoir installer des paysans et des paysannes qui ont envie de produire de manière différente. Et après, il y a aussi des filières qu'il va falloir remonter avec moins d'intermédiaires, des intermédiaires qui vont vendre de manière plus locale. C'est un combat aujourd'hui de vouloir s'installer, mais la réalité c'est qu'il y a 50% des agriculteurs qui partent à la retraite dans les 5 ou 6 prochaines années. Donc en fait, il y a un certain nombre de terres qui vont devenir disponibles et il va falloir répondre à l'appel de l'atelier paysan qui dit qu'il faut installer 1 million de paysans et de paysannes. Reprendre la terre au sens très physique et matériel du sol. Il va falloir réfléchir à des nouveaux systèmes de production alimentaire, beaucoup plus démocratiques, beaucoup plus sociaux. Je pense à la sécurité sociale de l'alimentation. On a le droit d'avoir une alimentation saine. Tous les gens précaires qui ont recours à l'aide alimentaire et qui mangent des produits de merde chimique que les supermarchés jettent. En fait, c'est pas possible. On peut pas décider collectivement de nourrir des gens précaires avec les détritus de ce qu'on consomme pas. L'alimentation, c'est un droit, il doit être accessible à tous et à toutes. Et donc la sécurité sociale de l'alimentation, l'idée c'est que ça fonctionne un peu comme la sécurité sociale en niveau de la santé. Un chèque tous les mois de 150 € de manière universelle pour bénéficier, pour pouvoir les consommer des produits qu'on aura démocratiquement décidé de vouloir consommer avec cet argent-là. Et donc l'idée c'est de créer des caisses de sécurité sociale de l'alimentation, éventuellement d'avoir des producteurs et des productrices qui dépendent de ces caisses et qui produisent pour un territoire. Et de nouveau c'est recréer des liens sociaux sur un territoire, recréer des liens entre les habitants, les habitantes et les gens qui produisent. L'idée de renourrir le territoire, de répondre aux besoins de son territoire et donc se réancrer vraiment dans un système de production alimentaire qui est socialisé, qui est territorialisé, qui est démocratique. Et donc s'installer va être un combat, reprendre la terre à l'agro-industrie va aussi être un combat complètement compatible avec notre lutte contre l'agro-industrie et contre l'agro-business. Aujourd'hui, il y a des projets de fermes-usines qui arrivent constamment sur nos territoires et avec la loi du plomb encore plus. Et donc nous, on a décidé de lutter contre ça, mais on a décidé aussi de lutter pour la paysannerie et pour l'installation et la facilitation de l'installation de paysans et de paysannes. Et on est beaucoup à vouloir s'installer et à être en formation pour le faire.
Petite ferme.
tient désormais debout bien aux quatre vents. Sa réputation n'est maintenant plus à faire, tu comprends. Mais tu vois, ça n'est pas assez. Montrer que c'est possible, ça n'apporte pas de respect. Elle sait trop de quoi demain sera fait si elle reste seule dans son coin sans se mobiliser. Demain crèveront les paysans de la planète. Elle ne peut ignorer ceux qui croulent sous les dettes. Et son combat la mène un peu partout en France. Elle capte la colère, elle capte la souffrance. Petite ferme a choisi de se battre contre les méga bassines et le béton qui ne cesse de croître. Petite ferme.
Alors on a beaucoup parlé d'un prétendu syndicat agricole majoritaire qui est la FNSEA. Tu as mentionné aussi à l'instant un autre syndicat qui s'appelle la Coordination Rurale, syndicat agricole qui ne cache pas son affiliation au Front National. Et puis il y a aussi cet autre syndicat qui me semble très intelligent et qui est très vertueux, qui est la Confédération Paysanne. Vous en êtes proche ?
Oui, absolument. Il y a des membres de la Confédération Paysanne qui font partie de Bretagne contre les fermes-usines. À chaque fois qu'on fait des choses avec RAFU, on est en contact avec eux, on défend. Alors chacun dans son arène, puisqu'ils sont vraiment sur la défense des droits des travailleurs et des travailleuses, et que nous, on est plutôt là sur la lutte contre les fermes-usines. Mais en fait, on milite dans un même écosystème, on va dans le même sens. Donc on travaille main dans la main avec elles et avec eux.
L'agro-industrie fait la com, la malbouffe à l'époque existait déjà. Avoir de tout tout temps, la tyrannie du prix bas, les coups de pub qui font de nous des consommateurs, faux catalogue du bonheur. Mais en parler sans arrêt, ça devient un récit, une fable, ça s'imprime dans la rétine comme avenir désirable. Et si petite ferme veut faire parler d'elle, doit-elle user des mêmes codes au risque de brûler ses ailes? Merde, dans le passé, ces fermes étaient des milliers, on s'en sortait très bien sans les supermarchés. Et je ne crois pas que nous soyons plus stupides qu'avant, juste surexposés au confort, au putain d'écran. Pour la tech, le fric vient de nos addictions. Pour les paysans, il vient du chou, des dio et du reblochon. Et pour être sûr que tout le monde s'en procure, petite ferme assure, broc à la ceinture.
On sait ce que tu es quand on voit ce que tu dégustes. Petite ferme le sait et garde l'envie d'être juste. Elle sait le bio c'est chaud quand le 12 t'es déjà sous zéro. Et les iPhones sont des marqueurs sociaux plus sexy que des poireaux. Alors sache que petite ferme n'est pas que contestataire. Elle invente, elle innove et elle défend les terres. Soucieuse du sort de nos frères, elle propose le plan de la sécurité alimentaire pendant que le système survit sous perfusion. Tu sais ça c'est juste la question du choix d'où sont fléchés les bifetons. Ça fait 10 000 ans qu'elle nourrit nos sœurs, et encore petite ferme va remplir vos corps et vos cœurs.
Petite ferme va enchanter le monde des fous, elle va pousser un peu partout près de chez vous. Petite ferme va secouer les grosses, et t'inquiète tu verras, elle nourrira tes gosses. Petite ferme.
Petite ferme, quand des paysannes et des paysans de la Confédération Paysanne chantent combat, pratiques vertueuses et idéaux. Avant de retrouver Romane et François de Résistance aux fermes-usines, collectif qui ne se contente pas de dénoncer des catastrophes engendrées par l'agro-industrie, le RAFU propose aussi des modèles d'agriculture vertueuse et des actions.
On propose un autre système de production alimentaire. On va bientôt porter plainte contre l'État qui nuit à la santé des populations alors qu'il a un rôle de protection de la population. Donc on propose un autre système, mais cette phase de proposition par un autre système, elle passe par une phase de dire stop au système actuel. Et on prône des nouveaux modèles et on essaye de libérer des terres en faisant en sorte que les fermes-usines ne se font pas. Donc en fait, on est dans la proposition d'un autre système alimentaire et on n'est pas tout seul à le faire. La coalition nationale des résistances aux fermes-usines, aujourd'hui, elle travaille aussi avec une coalition européenne de collectifs qui luttent contre des fermes-usines partout en Europe. Donc on n'est pas juste une petite voix isolée. Partout en Europe, il y a des riverains et des riveraines de territoires ruraux qui décident qu'ils ne veulent plus vivre dans un environnement qui est malsain pour leur santé et malsain pour les agriculteurs et malsain pour le bien-être animal. Aujourd'hui, ce système-là, vraiment collectivement, partout en Europe et je pense aussi partout dans le monde, nous n'en voulons plus. Et donc, on s'y oppose pour proposer autre chose.
Plainte contre l'État, pour quel motif ? Empoisonnement de la population ?
L'idée d'un recours contre l'État pour carence fautive, hein, j'utilise les termes adéquats, c'est effectivement une plainte contre l'État qui ne fait pas son travail de protection des populations, qui ne fait pas son travail, entre autres, de planification de l'élevage industriel, par exemple, des installations industrielles d'élevage. Ce travail de planification, il n'a pas été fait depuis des décennies, ce qui produit des conséquences concentration assez importante dans certaines régions et des répercussions sur l'environnement, sur l'aspect social. L'État n'a pas respecté ses propres lois. Il a fait en sorte d'ignorer les effets cumulés. Et les effets cumulés, ils sont là aujourd'hui en Bretagne. On parlait des algues vertes et c'est parmi une des répercussions les plus visibles. Aujourd'hui, quand on est en littoral breton, on voit ces algues vertes, c'est une répercussion très visible. Il y en a bien d'autres, des répercussions qui ne sont pas aussi visibles, de la concentration des élevages industriels et de la concentration en nitrate des masses d'eau.
C'est-à-dire, je peux en témoigner, hein, je suis allé en baie de Saint-Brieuc et je suis promené autour de l'estuaire de cette rivière, le Gouessant, et il y a cette couleur complètement surréaliste, vert phosphorescent, pâle, qui recouvre tous les rochers. Et tout autour, il y a une zone où il est interdit de pénétrer par moment, avec un panneau tous les 2 mètres, et sur chaque panneau, un danger, ne franchissez pas cette zone, danger de mort. Ouais. Donc à cause des émanations toxiques, des algues vertes qui empoisonnent.
Voilà. Gènes sulfurés qui en émanent. Ça, c'est la partie visible, je dirais. Mais il y a bien d'autres parties qui ne sont pas visible pour être assez proche de ce sujet-là. Par exemple, les plans d'eau en Bretagne intérieure, les plans d'eau douce, les lacs, les étangs, etc., sont victimes également d'un apport d'excès de nutriments. Ce qui nourrit les algues vertes, c'est l'azote et le phosphore, qui viennent directement des épandages d'excréments des élevages industriels. La preuve a été établie maintenant. Dans les plans d'eau intérieurs, les cours d'eau également, enfin surtout les plans d'eau intérieurs, on a également un problème. Pas les algues vertes, c'est les algues bleues. Les algues bleues, c'est les cyanobactéries, qui sont des cyanotoxines, qui dégagent des cyanotoxiques, qui conduisent à des fermetures d'activités nautiques. C'est-à-dire qu'on n'a plus le droit de faire de la voile sur des plans d'eau, du canoë, de nager encore moins, de la pêche non plus, parce que les poissons ne sont plus bons à la consommation, etc. Et en même temps, on a l'Agence régionale de santé qui garde la classification des plans d'eau comme étant excellente qualité. Ce qui est totalement aberrant, parce que l'excellente qualité qualifiée par l'ARS dépend de critères chimiques qui sont analysés, qui ne comprennent pas les cyanobactéries. Donc on a à la fois les cyanobactéries qui conduisent à des arrêtés municipaux d'interdiction de baignade d'activité nautique, et de l'autre côté, l'ARS qui qualifie avec un joli panneau « eau de qualité excellente ». Il y a un moment où on va se retrouver les algues vertes. On a fait le boulot et maintenant, ça y est, l'État, l'ARS arrive à mettre des choses en place. Sur les plans d'eau intérieurs, ce n'est pas encore le cas, mais on y travaille pour que les excès de nutriments qui arrivent sur ces plans d'eau aussi, qu'on prenne conscience qu'il y a des répercussions très directes sur la qualité de l'eau.
Romain mentionnait aussi tout à l'heure des staphylocoques dorés.
Oui, voilà, c'est ça. Mais en parlant de l'eau, je dirais que la partie peut-être la moins visible aujourd'hui, c'est la question de la ressource en eau pour les années qui viennent. Puisqu'on a une évolution du climat, que ce soit en Bretagne ou ailleurs en France, avec globalement des perspectives où les précipitations vont donner à peu près la même quantité d'eau qui tombe sur les différents territoires, mais par contre avec une évaporation, une évapotranspiration beaucoup plus forte, ce qui réduit en réalité la ressource en eau pour les 20 ans qui viennent, les 20-25 ans qui viennent. La ressource en eau va diminuer et en même temps, la demande en consommation, vu les températures qui vont augmenter, va être supérieure. Donc on va avoir un croisement de courbes dans les 25 ans qui viennent, un croisement de courbes qui fait que la disponibilité de la ressource diminuant et la demande augmentant, on va avoir des situations de crise assez énormes dans les différents territoires en France, si on continue avec le modèle tel qu'il est, le modèle agro-industriel, entre autres, de production agricole dominant. C'est France Stratégie qui a élaboré une étude sur ces sujets-là, en confrontant, c'est tout récent, c'est du mois de juin 2025, en confrontant les consommations par bassin versant à la ressource disponible dans les 25 ans qui viennent. Ils ont modélisé 3 scénarios. Un scénario de « on continue le fonctionnement actuel » et là, France Stratégie dit clairement on va dans le rouge pour l'ensemble des bassins versants en France métropolitaine. On a un scénario application des politiques publiques actuelles. Et là aussi, on va dans le rouge parce qu'on sait que les politiques publiques vont favoriser, bah, on le voit, hein, les méga-bassines, etc. Enfin, les... Voilà. Et donc, on voit que la continuation des politiques publiques ne résout pas la question. Et France Stratégie, c'est le haut commissariat à la stratégie et au plan hein, qui le signe ce document, dit, bah, voilà, dans les 25 ans, si on continue avec l'application des politiques publiques actuelles, on va dans le rouge pour l'ensemble des bassins versants. En France, c'est un petit peu mieux que le scénario tendanciel, mais c'est encore pas du tout la bonne direction. Et France Stratégie travaille sur un modèle de rupture. C'est la première fois qu'on entend le mot rupture de la part d'un établissement dépendant du gouvernement, France Stratégie. Et dans le scénario rupture, il préconise une baisse de la consommation de viande, de ne pas recréer des méga-bassines supplémentaires, de diminuer la part du nucléaire qui, lui, fait des surconsommations d'eau par nécessité de refroidissement des réacteurs. Voilà, il fait tout un schéma de société qui, lui, peut tenir à l'équation intenable jusqu'à présent de la ressource en eau entre le besoin et la disponibilité de la ressource en eau en France dans les 25 ans qui viennent. Donc on a en fait un appui, un allié quelque part qui nous rejoint, c'est France Stratégie, le haut commissariat de la stratégie et du plan, qui dit la même chose que ce qu'on dit depuis des années.
Qui est une organisation étatique.
Auprès du Premier ministre, hein, quand même. Assez hallucinant de voir ces documents-là, ces études avec toutes les méthodologies expliquées, vraiment quelque chose de très approfondi comme étude, qui conclut que bah, en fait, le système agro-industriel, entre autres, va dans le mur. Et c'est ce qu'on dit depuis des années, c'est qu'on est dans une impasse. Et que cette impasse, on va taper dedans, taper dans le mur, parce que ce n'est pas tenable. Donc on va vers une crise forte dans la continuité des politiques publiques aujourd'hui. Donc la loi du plomb, elle va dans ce sens-là, elle accélère les possibilités d'installation d'élevage en remontant les seuils, en invisibilisant pour la population ce qui se fait, en empêchant la population de se saisir des décisions sur le territoire où les populations habitent. La loi du plomb le fait et malheureusement le Conseil constitutionnel n'a pas sanctionné cet aspect-là.
Au moment où on se parle, on est donc le vendredi 8 août 2025 et hier à 18h, effectivement, le Conseil constitutionnel a rendu son délibéré sur la loi du plomb et c'était un peu ce qu'on craignait, hein, c'est-à-dire, ok, 2 millions de signatures sur une pétition, probablement pas signée que par des éco-terroristes, mais par des citoyens, des citoyennes qui ont bien compris en fait que l'acétamipride, c'est pas bon pour la santé et qui n'avaient pas envie de se retrouver avec de la maladie dans leur assiette. Le pouvoir a lâché sur l'acétamipride, donc ce néonicotinoïde tueur d'abeilles, parce qu'on a bien compris que ça avait alerté les consommatrices. Mais du coup, on concerne les fermes-usines, les méga-bassines, le contrôle de l'Office national de la biodiversité, la mise sous tutelle d'instances scientifiques par le pouvoir politique. Voilà, on vous fait sauter l'acétamipride et regarde tout le reste.
On a aussi, dans ce que tu as cité, le fait que les populations n'ont plus accès de la même façon au débat public. Le débat public, normalement, il doit avoir lieu. Les décisions d'aménagement du territoire doivent normalement appartenir à l'ensemble de la population. Et aujourd'hui, les pouvoirs de décision de la population lui sont retirés au fur et à mesure. Ce que dit la loi du plomb sur les enquêtes publiques, c'est que antérieurement à la loi du plomb, il y avait une réunion publique au début de l'enquête publique et une réunion publique à la fin de l'enquête publique, ce qui permettait des débats, au moins un échange entre la population, le porteur de projet, le commissaire, la commissaire enquêtrice, etc. Aujourd'hui, l'initiative d'une réunion publique, elle appartient au porteur de projet. Évidemment, lui, il va avoir son intérêt. Son intérêt, il est financier. Son intérêt, c'est de faire passer le projet. Donc, il va faire une réunion publique. Si ça l'intéresse, si ça va dans son sens, il fera la réunion publique. Si ça ne va pas dans son sens, s'il sent le vent tourner, il se dit, bah, moi, je ne veux pas faire de réunion publique. Tant pis, salut, je continue mon projet, quoi. Donc, on enlève petit à petit des possibilités d'intervenir sur les choix qui concernent l'ensemble de la population. Les délais de recours, ils étaient de 4 mois, on nous les diminue à 2 mois pour accélérer l'installation des fermes-usines, des élevages, etc. Ces délais de recours, ils se retrouvent très courts, donc ce qui veut dire qu'on a intérêt à aller très vite. Déjà que le fait de créer une association après l'arrêté d'ouverture d'enquête publique, déjà rend l'association inapte à déposer un recours. C'est-à-dire que vous ignorez tout de ce qu'il y a comme projet autour de chez vous. Un jour, il y a un affichage qui dit « il y a une enquête publique sur un projet », vous vous dites « ah, ça ne me plaît pas du tout, on est plusieurs à penser la même chose, on va faire une association ». En fait, c'est trop tard. C'est-à-dire que vous auriez dû faire l'association avant de savoir qu'il y avait le projet. Ah oui, ah bon, voilà, la loi est faite comme ça. Déjà, on voit les freins qui sont posés à la participation du public, aux décisions qui concernent la population. Donc là, la loi Duplomb ne fait que renforcer ces éléments-là, quoi.
Du coup, avec Rafu, on va appeler à se mobiliser contre la loi Duplomb. Fin septembre, on va organiser une journée nationale d'action décentralisée partout en France. Si vous avez signé cette pétition contre la loi Duplomb et que vraiment, pour vous, c'est pas du tout OK que cette loi passe, que ce gouvernement continue de nous empoisonner, que ces élevages continuent de s'agrandir, on vous invite à vous mobiliser avec nous. Vous pouvez trouver toutes les infos sur le site Résistance aux fermes-usines, tout ça au pluriel. On fera passer un appel à mobilisation et on vous invite à être actifs et actives dans les mouvements sociaux de septembre, parce que c'est pas possible ce déni démocratique, on n'en peut plus, on court vers notre perte et c'est pas possible.
C'est dangereux. Je repense à cette journaliste qui a eu le toupet d'enquêter sur les fermes-usines et qui s'est retrouvée avec sa voiture sabotée.
Est-ce que c'est dangereux de militer contre les fermes-usines ?
Ouais.
Eh bien, militer contre les fermes-usines, c'est aller en manif et avoir des tracteurs avec écrit « un bon écolo est un écolo mort ». Enfin, je pense à l'Office français de la biodiversité qui s'est pris des bombes et qui s'est fait détruire ses locaux par la coordination rurale. En fait, c'est pas militer contre la ferme-usine qui est dangereux aujourd'hui, c'est militer et agir pour le bien commun qui devient dangereux, parce qu'en face de nous, il y a des gens qui défendent du profit et qui n'ont aucune limite et qui fonctionnent comme une mafia. Donc oui, c'est dangereux. Des fois, ça fait peur, en fait, de vouloir défendre ce bien commun. Mais je pense que on est vraiment attaché à la production d'un monde démocratique, social, alimentaire, correct, où en fait les gens sont justement rémunérés. Un monde anticapitaliste, antipatriarcal, alors c'est peut-être des mots assez forts, mais c'est quand même ça la logique pour nous. Et se rattacher à ces valeurs-là et à cette éthique-là et le faire collectivement, ça permet d'affronter ces peurs-là et de se dire que de toute façon, on n'a rien à se reprocher parce qu'on se bat pour un monde meilleur. On se bat pour un monde qui n'empoisonne pas les populations pour faire de l'argent. On se bat pour un monde où les gens ils peuvent vivre de leur travail, où les agriculteurs ne se suicident pas parce que les conditions de travail sont aussi terribles. Et pour moi, ça, c'est vraiment juste la base. On se bat pour pouvoir adapter l'agriculture au réchauffement climatique. L'année dernière, l'été dernier, il y a eu 40% des moissons de blé qui ont été détruites par la pluie à cause du réchauffement climatique. Il y a des troupeaux qui sont morts à cause d'insectes liés au réchauffement climatique. Je pense là à la fièvre catarrhale ovine, par exemple. Ça a des réelles conséquences sur la vie des agriculteurs. Et donc, nous, notre combat, il est juste, il est sain, il est éthique et il est positif. Donc oui, des fois, on doit s'engager dans des rapports de force parce qu'en face de nous, le pouvoir, il est énorme. Mais on n'a pas tort et on est mu par des valeurs de bien commun. Et donc, on affronte la peur collectivement. On est un camp fort, ensemble, uni. Et on est fort et radicaux et déter.
Viens les goûter. Roi d'Espagne, légumes bio. Bien sûr, c'est du quartier.
Bien sûr.
L'oseille, on calcule. Sud du Prado, on est pro.
Ouais.
La confiance. Maraîcher, tu as trop la confiance. Les masses bouteilles quand je mettais dans mon terreau dispense. Tu veux nous faire la guerre, je vais t'écraser. Ça prend tes radis, ça prend tes céleri, ça prend ta teuté. Le téléphone bip, faut tout préparer oh. C'est marché mémé,
allez.
Ça m'a rassé bébé. Tant qu'il ou quoi, grimpe dans la remorque. Je fais 0 à 20 en 1h03. Tractorisé, y'a assez d'essence. On se croit c'est sûr, tu es devenu fermier.
J'ai passé la bague à Chiqui Poule, 2 ans après je l'ai liquidé. Y'a des petits canards, y'a un chat haché et des équidés. Que des phénomènes, je vais te les faire kiffer. On fout le feu nous-mêmes.
Tu disais en début d'émission que tu envisageais de t'installer en tant que paysanne. As-tu une idée de à quoi pourrait ressembler ton activité ?
Moi, la ferme que j'envisage de créer avec mes partenaires, c'est une ferme en collectif qui produit de la viande, du fromage, des légumineuses, des céréales, qui est un système de prix de soutien et de prix solidaire pour que ces produits-là soient accessibles à tous et à toutes. Une ferme ancrée sur son territoire, un lieu social, d'accueil, d'activités culturelles. Ça va s'appeler la commune ferme, parce que c'est une ferme en commun et c'est une ferme pour tous et pour toutes. Et c'est aussi une ferme où on va se laisser du temps pour continuer à militer contre ce système de l'agro-business et de la mafia agro-industrielle. Moi, je ne peux pas vivre dans un monde où je laisse les politiques nous empoisonner.
Pour continuer à s'informer, RAFU, Résistance aux Fermes Usines, vous avez un site internet ?
On a un site internet, on peut s'inscrire sur une liste de diffusion de mails avec des nouvelles régulières. S'il y a des gens qui voient un projet de ferme usine se créer à côté de chez eux, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter, notre coalition elle est aussi là pour faire de l'entraide entre collectifs, pour se partager des compétences, des expériences, et on est là pour accompagner tout ça. Et ensemble, on va y arriver. Aujourd'hui, le monde, il a radicalement changé par rapport aux années 50 où il fallait nourrir le monde et où ça a mené à toute cette surconcentration d'élevage et c'est pour ça qu'il y a toutes ces conséquences néfastes. Aujourd'hui, on est dans un nouvel ère où il faut prendre en compte les limites planétaires, prendre en compte le revenu des agriculteurs et ensemble, on construit ce monde-là, un monde qui articule des conditions décentes de travail pour les agriculteurs et les agricultrices et le respect des limites planétaires parce que juste, on n'a pas le choix de faire autrement.
Ce que je pourrais rajouter comme élément de conclusion, c'est l'aspect de la joie. C'est-à-dire que notre lutte, que ce soit résistance aux fermes usines ou Bretagne contre les fermes usines, dans nos différents mouvements, on a un élan positif, un élan de solidarité, de lien humain qui est très fort, qui nous soude et qui nous donne l'envie d'avancer ensemble avec une volonté aussi de le faire dans quelque chose de positif, même si cette situation, on la connaît dramatique, tragique sur certains côtés, on ne veut pas se laisser enfermer dans des postures d'opposants, de défaitistes, de ceux qui ont perdu la bataille. Non, nous on est au contraire orientés vers quelque chose de positif et on sait qu'on va gagner à terme. On ne sait pas par où on va passer, mais on fait appel à la fois à ce qu'on appelle la joie militante et à l'imagination, parce qu'on sera toujours là où on ne nous attend pas et on va bousculer le système, ça c'est sûr.
Ça se trouve même des fois, vous faites la fête.
Mais oui, bien sûr, et on fait... Ah ben oui, je ne l'ai pas dit, mais ça fait partie, bien sûr, on fait la fête.
Merci à vous pour ce moment passé avec vous et à bientôt.
À bientôt.
À bientôt, à bientôt.
Et voilà les amis, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de RAFU, Résistance aux Fermes Usines. Cette conversation a été enregistrée en août 2025 au génial festival Les Résistantes, qu'on remercie. Vous pouvez télécharger cette émission et plein d'autres sur notre site, polémique-c'est-la-voix-off.com, avant qu'on se retrouve très bientôt sur votre radio encore libre, préférée, mais pour combien de temps ? Ce n'est qu'un combat, continuons le début, salut.
Sache que Petite Ferme n'est pas que contestataire. Elle invente, elle innove et elle défend les terres. Soucieuse du sort de nos frères, elle propose le plan de la sécurité alimentaire pendant que le système survit sous perfusion. Tu sais, ça c'est juste la question du choix d'où sont fléchés les bifetons. Ça fait 10 000 ans qu'elle nourrit nos sœurs et encore Petite Ferme va remplir vos corps et vos cœurs. Petite Ferme va enchanter le monde des fous. Elle va pousser un peu partout près de chez vous. Petite Ferme va secouer les grosses et t'inquiète, tu verras, elle nourrira tes gosses. Petite Ferme.
HDR 99.1.
So we dashing up, looking like a cocaine addict. Baby, baby,
culture, c'est sur le 99.1.
Oh, chigualito, chigualatero.